Ouais, j'ai fait sauter une émission, ça arrive. Je vous ai manqué ? Eh ben aujourd'hui, on fait le plein de films. C'est parti !
Allez, du cinéma ! Allez, du cinéma,
bonjour ! Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Peu d'actu, mais un paquet de films dans les salles françaises. J'en ai vu pas mal, je vous donne mon avis dessus. On commencera par Les Rois de la Piste, avec Kassovitz et Fanny Ardant, en braqueur loser attachant. Ensuite, on ira faire un tour du côté de la Malaisie pour y voir du cinéma fantastique engagé avec Tiger Stripes, entre le règne animal et malédiction féminine. Dans la version audio, un bilan à la bourre du box-office pour voir qui marche en salle, et dans la version vidéo, les trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public et encore un autre film en salle en ce moment, The Sweet East. Oui, aujourd'hui c'est la totale. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu d'émission mercredi parce que j'avais des trucs perso à gérer. Ça arrive, c'est aussi la difficulté de faire une émission trois fois par semaine, c'est qu'il y a des moments où t'es moins à l'aise à l'idée de te mettre devant la caméra et raconter des trucs, faire des blagues, te montrer, des fois juste t'es pas en état. Il faut aussi parfois sortir du cadre de l'émission et prendre soin un petit peu de ce qui se passe dans sa vie privée, et oui, c'est ce que j'ai fait, et ça m'a fait beaucoup de bien, et puis c'est partir pour mieux revenir. La preuve, je suis là. D'ailleurs, merci pour tous vos messages que j'ai reçus à la fois sur YouTube ou aussi sur Instagram. D'ailleurs, faut qu'on parle de Instagram. À chaque émission, je vous dis, suivez-moi sur Instagram pour avoir toutes les infos. À chaque fois, j'ai quelques personnes qui s'abonnent. Là, je disparais une journée. J'ai jamais pris autant d'abonnements sur Instagram. Il faut que je fasse sauter une émission pour que les gens se disent, ah oui, il avait dit d'aller sur Insta et que tout le monde s'abonne en masse. Mais je vais le faire plus souvent, du coup. Abonnez-vous même quand je suis là. Vous verrez, c'est sympa, hein. Allez, le pire podcast cinéma, c'est trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma, et on démarre tout de suite avec les sujets du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
C'est rare que je traite des sorties françaises dans l'émission parce que j'habite au Québec et les films sortent pas nécessairement en même temps entre la France et le Québec, mais ça arrive que je puisse voir des films en avance, voire même très en avance, et dans ce cas-là, faut en profiter, faut en parler. Et aujourd'hui, c'est pas rien, surtout quand on sait que le film français en question est une des plus grosses sorties de la semaine, avec un casting all-star, et dont le pitch m'intriguait plus qu'un peu. C'est le premier film de cette émission, c'est en salle depuis ces mercredis, je vous parle du film Les Rois de la Piste.
Jérémy se planquerait dans le Cotentin.
S'il se cache dans trop perdu, c'est parce qu'il a encore tableau.
T'es sur ton tuyau parce que c'est cafard ici. Hein.
Les Rois de la Piste, c'est le nouveau film de Thierry Cliffa. C'est le deuxième film que je vois de lui. Le premier que j'avais vu, c'était Tout nous sépare en 2016 avec Catherine Deneuve et Nekfeu. Je l'avais d'ailleurs surtout vu à l'époque pour Nekfeu. Et le film était très moyen. Voilà, c'est dommage. D'ailleurs, je cite Catherine Deneuve, mais elle était présente dans quasi tous les films de Thierry Cliffa. Elle était dans les deux précédents. Et pour une fois, eh bien, elle n'est pas dans Les Rois de la Piste. Non, ici, on retrouve Fanny Ardant qui dirige une famille de braqueurs losers bracassés qui est composée, entre autres, de Mathieu Kassovitz, de Nicolas Duvauchel ou de Ben Attal. Un braquage va mal tourner, un tableau va disparaître, le plus jeune de l'équipe va faire 3 ans de placard et quand il sort, une seule question se pose, où qu'il ait passé le tableau. Et je vais le dire tout de suite, j'ai plutôt de la sympathie pour le film. Je le trouve plutôt réussi. Même s'il y a toujours un truc qui va pas à l'intérieur. Il y a tout pour que ça marche, mais à chaque scène, à chaque dialogue, c'est comme s'il y avait un grain de sable dans l'engrenage qui faisait que, ok, ça marche, mais ça sautille un peu quand même. Et en fait, plus j'y pense, plus je crois que ce que j'aime vraiment dans le film, c'est ce que les comédiens et comédiennes y font. Et pas le film en lui-même. Je vais m'expliquer. Les Rois de la Piste, c'est du cinéma français très écrit, avec des tartines de dialogue, des grandes phrases qui sonnent peu naturelles, mais qui conservent quand même tout le romanesque du cinéma. Tout ça en plus dans une ambition de comédie dramatique policière, c'est-à-dire que tu dois gérer tous tes grands élans dramatiques, mais en même temps conserver un certain tempo comique. Il y a vraiment deux films qui s'affrontent. Et le problème, c'est que le film a un côté très vieillissant, très vieux cinéma, avec sa réalisation plan-plan, ses transitions, vraiment venues d'un autre temps, vraiment molle. Ça a vraiment la tronche d'un téléfilm plus, quoi. C'est-à-dire que quand tu te retrouves au cinéma à regarder ça, tu te dis, putain, donnez-moi plus, en fait, je me suis déplacé, donnez-moi quelque chose à bouffer. T'as l'impression que ça veut à la fois rendre hommage à justement ce cinéma d'un autre temps, et en même temps, la pellicule sent un peu la naphtaline, vous voyez? Surtout que même l'intrigue est un peu convenue dans ces relations. C'est un film policier où le suspense n'existe pas, où tu vois tout venir à 10 km. Ce qui est un peu embêtant parce que c'est quand même dans les codes du genre. Mais comme je disais, et c'est fou pour un film, mais c'est pas le film qui t'accroche. c'est ce que les acteurs et les actrices font à l'intérieur. Et comme l'impression de voir, tu sais, une mauvaise pièce de théâtre de boulevard où l'intrigue t'en a rien à foutre, mais tu restes parce que, putain, l'énergie des comédiens sur scène est assez passionnante à regarder. Surtout que les personnages du film, ils ont rien de réel. On dirait vraiment des personnages de bande dessinée. Ils sont à côté de la réalité, ils sont plus grands que la réalité. Et au niveau du casting, c'est un quasi sans faute. Il y a une personne qui me dérange, que je trouve vraiment à côté du film, mais j'en parlerai après parce que sinon c'est vraiment vraiment bon. Kassovitz est impérial. Sans déconner, on sait que c'est un super comédien, mais là, il va dans le registre comique un peu idiot, un registre dans lequel il est pas souvent allé, et il le fait tellement bien. Il joue un personnage qui est assez pitoyable, et il va se donner beaucoup pour le faire exister avec des mimiques de visage, avec sa petite bouche pincée, qui renforce justement tout son côté minable. Il a une dégaine pourrie, là, avec son ciré jaune qui prend des tasses en boîte de nuit. Non, vraiment, il est vraiment marrant. Puis surtout, il a une maîtrise du texte qui est épatante. Je vous parlais de tartines de dialogue, de phrases assez peu naturelles. Ben, même les phrases à rallonge les plus pompeuses possibles, ben, il arrive à les délivrer avec un naturel qui est assez désarmant. Après, t'as Fanny Ardant qui, elle, bon, parle de manière peu naturelle, très romanesque dans la vie de tous les jours, donc elle arrive plutôt bien à se fondre dans le moule sans trop de difficultés. T'as Laetitia Dush qui joue une flic infiltrée qui doit continuellement être sur deux niveaux, passer du très sérieux au très comique, et elle m'a étonnamment touché dans le dernier acte. Et t'as Nicolas Duvauchel qui joue un rôle que je peux pas dévoiler ici. Je pensais pouvoir en parler, mais j'ai vérifié les bandes annonces, j'ai vérifié toutes les images du film, et aucun élément de communication n'a spoilé qu'est-ce que joue Nicolas Duvauchel dans le film. Donc je vais pas vendre la mèche, ce serait idiot. Tout ce que j'allais dire, c'est que quand je l'ai vu arriver à l'écran, je me suis dit, oh là là, quelle mauvaise idée. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Où est-ce que vous allez avec ça? Et c'est probablement le meilleur personnage du film. C'est le plus touchant, c'est celui qui est traité avec la plus grande douceur par l'écriture. C'est non, vraiment, c'est la fausse bonne idée qui a été transcendée de manière assez brillante. Il y a tout pour que ça marche pas, et ça marche. Donc quand vous irez voir le film, vous découvrirez qui joue Nicolas Duvauchel, et vous verrez que, ouais, c'est assez fou comme l'écriture a réussi à rester dans un cadre qui lui permet d'exister et de fonctionner sans être, ouais, sans être raté, quoi. Et je parlais d'un casting sans faute, sauf un, le seul qui me dérange vraiment, c'est Ben Attal. Et qui avait déjà joué en plus avec Kassovitz dans un film de son père qui s'appelait Les Choses Humaines. C'était vraiment pas mal, Les Choses Humaines. Et tu te dis, va y avoir un feeling et tout, et le feeling y est pas. En fait, on dirait un personnage qui est pas dans le bon film. C'est-à-dire, tout, justement, est hors du réel, et lui, il joue comme s'il était très sérieux dans un film d'Olivier Marshall. Il y a un problème de ton. Donc, j'en reviens à mon truc de tout à l'heure, tu te dis, en regardant le film, putain, pourquoi je me suis déplacé au cinéma pour voir un truc qui est aussi peu intéressant en termes de mise en scène? Et en fait, tu restes pour le bonheur que te donnent les gens à l'écran. Parce que ça se donne, parce que c'est drôle, parce que c'est vraiment drôle parfois, et que ça arrive même à être assez émouvant. Je suis en train de défendre un film où je trouve la réelle nulle, le scénario convenu, mais où j'arrive à me faire avoir par les comédiens et comédiennes, quoi. Ce qui est quand même fou, c'est dire s'ils sont bons, parce que sinon tous les points négatifs les auraient bouffés. Mais c'est dire comme ils sont bons. Voilà, faut juste être au courant de ça. Faut juste savoir que quand vous allez voir ce film, eh ben c'est pour les gens qui se trouvent à l'écran. Et que le reste pas tellement. Mais à partir de là, il est probable que, en sachant cela, vous passerez un bon moment.
Tu vas aller jusqu'au bout?
Au bout de quoi, Sam? De quoi tu parles?
C'est pas un bon jeu pour tirer sur quelqu'un.
Pour moi, il nous en fume. En marre.
Plus petite sortie cette semaine, on quitte la France pour se diriger vers la Malaisie, un pays que je ne savais même pas situé sur une carte avant aujourd'hui, mais qui vient de nous envoyer du cinéma d'horreur fantastique. Et du coup, je l'ai vu, c'est sorti en salle ce mercredi, il faut qu'on en parle. Ça s'appelle Tiger Stripes. Bon, déjà, on va se poser une question entre Chad cinéphile. Vous aviez déjà vu un film en provenance de la Malaisie? Moi, je vais être honnête avec vous, pas du tout. Il faut dire aussi que des sorties dans les salles françaises de films malaisiens, il y en a pas tous les quatre matins. Et du coup, quand j'attaque le film, bah, je me dis, bah, j'ai pas tous les codes. Je connais pas le système politique en place, je connais pas la religion, je connais pas comment fonctionne la famille là-bas, comment fonctionne le système scolaire, j'ai pas les datas. Donc je plonge dans l'univers de Tiger Stripes comme on plonge dans l'inconnu. Et ça marche assez bien avec le registre du film, qui est un film d'horreur fantastique et qui t'invite donc à une plongée dans l'inconnu. Et je dis film d'horreur, mais bon, faut le dire vite. C'est plutôt un film dramatique aux connotations fantastiques. C'est le règne animal de la puberté féminine. Pas sûr de ma métaphore, mais en vrai, ceux qui ont vu le film seront peut-être d'accord avec moi. Toute l'histoire, c'est qu'on va suivre Zafan, qui est une gamine de 11 ans dont la puberté va commencer et qui va entraîner un bon paquet de changements physiques. Et des fois la nuit, elle regarde dans les arbres et il y a des vieilles femmes perchées avec des yeux lumineux qui l'observent. Voilà, c'est ça aussi le film. Donc tu comprends que tu vas suivre deux récits en parallèle. Tout d'abord celui d'une gamine dont c'est l'éveil à un univers qu'elle ne connaît pas, dont elle saisit pas tout, son corps change et ça la perturbe. Et quand je parle de changer, voilà, c'est la métaphore de la puberté qui va justement emmener à toutes les dimensions fantastiques. Et en même temps, tu suis les conséquences de ce changement dans le cadre scolaire. C'est-à-dire justement tout ce que ça va créer de rejet, tout ce que ça va créer de harcèlement, etc., etc. Et on va être honnête tout de suite, vous avez déjà vu des films sur le harcèlement scolaire ? Vous avez vu globalement ce qui se passe pendant la première moitié de Tiger Stripes. Oui, c'est assez convenu dans sa manière de dérouler autour de ce sujet. C'est pas plus original que ça. Elle a une ancienne amie qui va devenir la chef des bullies et qui en plus a une position d'autorité de par le fait qu'elle est déléguée. Globalement, c'est des ressorts qu'on connaît. Même la dynamique familiale, elle est assez convenue. T'as une mère autoritaire avec laquelle tu peux pas communiquer et échanger sur ce qui te perturbe. Il y a un père qui est absent. Tout ce que ça traite, c'est la solitude de l'entrée dans l'adolescence. Ça, on connaît. Voilà, on tombe pas de notre chaise. Mais la pilule passe pour deux raisons. Tout d'abord, il y a la réalisation, qui est absolument époustouflante. Vraiment, il y a un travail du cadre, de la lumière, de la colorimétrie, notamment dans sa manière d'isoler dans des forêts des tout petits personnages au milieu, de leur faire ressentir un univers qui les dépasse. C'est assez passionnant à regarder. Vraiment, c'est assez bien foutu. Il y a un paquet de plans à tomber par terre, mais surtout, moi, ce qui me fait rester, bah, c'est toute la dimension body horror. Bah oui, parce que quand je dis que le corps se transforme, il se transforme pour de vrai. Il y a des plaques qui apparaissent, il y a des ongles qui tombent et qui sont remplacés par d'autres trucs. Il y a des grosses moustaches qui apparaissent sur le visage. Il y a un paquet de choses qu'il faut réussir à dissimuler et ça va être tout l'enjeu de la première moitié. Parce que le vrai tournant du film arrive pour moi dans la deuxième partie qui là va justement laisser de côté toute la partie drame scolaire, voilà, tout ça reste de côté pour assumer de véritables bizarreries. Et comme la gamine, le film va lui aussi se transformer dans quelque chose de beaucoup plus graphique, de beaucoup plus brutal, sans jamais délaisser en parallèle tout le travail du cadre dont je parlais plus tôt. C'est en même temps une grande violence qui s'exprime et en même temps on délaisse pas une certaine recherche sensorielle, de te faire comprendre quel est son état d'esprit par le travail de l'image. Et pour le coup, en plus, ça joue vachement bien. C'est-à-dire que ce soit la gamine principale ou les harceleuses qu'elle va avoir autour, non, ça joue vraiment très bien dans le film. C'est juste que, c'est un peu attendu, quoi. C'est-à-dire que oui, ok, je suis content des nouvelles trouvailles visuelles, mais ce qu'elle déroule ne me surprend jamais. Même pire que ça, le film a vraisemblablement pas un gros budget, et du coup il fonctionne sur un système de je fais monter la sauce, attention, attention, ça va péter, et quand ça pète, cut, et on te montre pas. Sans spoil, mais il y a vraiment un type à un moment qui se fait trancher la tête, voilà, parce que ça arrive aussi dans le film, et tu sais que ça va se produire, tu sais que ça va arriver, et au moment où ça doit arriver, cut, et on est très très loin de l'action, et tu vois juste une tête de mannequin pourri qui roule au sol, et c'est décevant, c'est frustrant comme expérience. Je sais que c'est pas l'enjeu, mais ça donne vraiment le sentiment d'un film qui est en constante progression mais qui n'achève jamais ce qui commence. Mais je maintiens qu'il y a plein de jolies idées. Il y a notamment un personnage de médecin charlatan nul, on dirait vraiment qu'il est issu de The Strangers de Naung Jin. Vraiment, il se mêlerait super bien à l'ensemble. Ce que je dis, c'est que c'est un premier film qui explore plein de trucs, qui foire parfois, qui tape à côté, mais qui a envie de proposer des visuels assez détonnants. Le problème, c'est qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions et que ses ambitions, derrière la petite bonne idée, restent assez peu originales. À vous de le voir pour vous faire votre propre avis. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va se faire un petit point sur le box-office. Oui, un peu à la bourre, on est vendredi, mais on va le faire quand même. D'habitude, ce que je vous donne le mercredi, c'est les chiffres de la fin du week-end. Mais du coup, vu qu'on est un peu à la bourre, là, j'ai les chiffres de toute la semaine. Youpi, ça va nous changer un petit peu. Et pour aborder les nouveautés qui sont sorties la semaine dernière, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a peu de trucs qui se démarquent vraiment fort. Le top 1 de la semaine dernière dans les nouveautés, c'est Bolero, le nouveau film de Anne Fontaine avec Raphaël Personnaz qui fait 177 000 entrées sur 511 copies. Et le problème, c'est que vu le nombre de copies, le score est vraiment pas dingue. Il devrait faire largement plus. Le problème, c'est qu'il a pas été aidé, notamment par une presse qui est assez divisée à son sujet. Le deuxième film dans les nouveautés, c'est 14 jours pour aller mieux, la comédie qui est sortie avec Maxime Gasteuil et qui fait 152 000 entrées sur 373 copies. Encore une fois, c'est un petit démarrage qui en plus a été aidé par le fait qu'il a fait 25 000 entrées en avant-première. Non, les nouveautés piétine un peu. Et parmi les nouveautés, il y a cette grosse merde d'Imaginary dont je vous parlais la semaine dernière, qui lui fait 89 000 entrées sur 250 copies. Le public n'est pas dupe. Il s'est bien rendu compte que le film était tout pourri, il le prenait pour un con, du coup il y retourne pas, il en parle en mal. Et pour vous dire à quel point le public est pas dupe, cette semaine, il y a eu aussi le spectacle de Jérémy Ferrari, Anesthésie Générale, qui a été diffusé en salle dimanche à 17h, je crois que c'était une séance unique, il y avait une seule séance. Et sur sa séance unique, Jérémy Ferrari a fait 85 000 entrées, soit quasiment autant en une seule séance que Imaginary sur tout son parcours.
Bravo Jérémy.
Après, pour les autres nouveautés, il y a la salle des profs dont je vous avais dit beaucoup de bien, qui fait un démarrage plutôt correct avec 90 000 entrées sur 156 copies. C'est plutôt pas mal. Et après, ça s'effondre un peu, quoi. Il y a Comme un fils de Nicolas Boukrieff avec Vincent Lindon qui fait 55 000 entrées sur 248 copies. Voilà, c'est vraiment un désastre. Il y a La vie de ma mère qui fait 58 000 entrées sur 170 copies. Là aussi, Agnès Jaoui et William Legbill n'ont pas réussi vraiment à convaincre. Et enfin, il y a le petit film HLM Pussy qui a pas été beaucoup distribué, qui a été distribué sur 87 copies. Mais même ça, ça n'a pas suffi, il fait 13 000 entrées. Donc du coup, si tous ces petits films marchent pas, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui marche alors en salle ? Eh ben Dune 2, bien évidemment Dune 2. Rien que cette semaine, en deuxième, il a fait plus d'un million d'entrées. Il en a un total de 2,3 millions cumulés sur toute sa période. Je rappelle que le premier avait fait 3,1 millions. Donc là, 2,3 millions, il va les dépasser largement. Maintenant, le vrai combat, c'est de savoir, est-ce qu'il atteindra un score comme celui d'Oppenheimer qui avait atteint les 5 millions d'entrées en fin de parcours ? Dans les autres films qui performent toujours, il y a Une vie avec Anthony Hopkins, voilà, qui marche toujours très bien. Il a dépassé le million d'entrées. Il peut tenter le 1,5 million. Bob Marley continue de faire des entrées aussi. Il est à 1,7 million. J'aimerais attirer votre attention sur un film plus petit, mais qui est quand même énorme, puisque c'est Dali de Quentin Dupieux qui a atteint les 465 000 entrées. Ce qui fait donc qu'il est en salle le plus gros succès de toute la carrière de Quentin Dupieux. Et ça me bute, ça me tue, parce que là où je pouvais le comprendre de la part de Yannick, qui était un film beaucoup plus accessible, que Dali soit le plus gros succès de Dupieux, que ce soit Dupieux qui devienne Bankable avec Dali, bon, ça me scie les jambes, ça me scie les jambes. Et on va pas aller du côté des États-Unis, on va rester en France parce que vu qu'on est vendredi, j'ai déjà des infos sur les premiers chiffres des sorties de ce mercredi. Alors dans les nouvelles sorties toutes fraîches, qui marche bien, le meilleur démarrage c'est Heureux Gagnant, distribué par Warner Bros avec Fabrice Eboué et un tas d'autres gens dont j'ai oublié le nom, qui fait 17 000 entrées sur 440 copies, c'est pas mal. C'est le meilleur démarrage, mais en cumul avec avant-première, c'est pas le meilleur puisqu'il y a la comédie italienne Il reste encore demain, oui, un film italien qui performe en France, faut dire que c'est assez rare, et qui a déjà fait 12 600 entrées, plus 25 000 entrées en avant-première, c'est énorme, voilà, c'est énorme, alors qu'il fait que 184 copies, il a 300 copies de moins que Heureux Gagnant, et il fait plus, c'est épatant. Les Rois de la Piste, dont je viens de vous parler, patine un peu, il fait 8 300 entrées sur 318 copies, c'est le moment de lui donner une chance et d'aller en salle pour essayer de voir si ça vous intéresse. Tiger Stripes aussi, dont je viens de vous parler, est très très peu distribué, et distribué seulement sur 31 copies, et du coup, il fait que 1000 entrées, ce qui est vraiment pas énorme. Et The Sweet East, dont je vais parler en fin d'émission, là aussi très peu distribué, sur 28 copies, il fait 2400 entrées. C'est plus que Tiger Stripes, mais c'est tout de même un peu dommage. Et si vous dites, putain, The Sweet East est quand même vachement peu distribué, 28 copies, c'est quand même pas beaucoup, alors dites-vous juste que vous avez 28 copies qui diffusent The Sweet East dans la France. Ici, au Québec, The Sweet East, il a été diffusé sur 3 copies. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit élément de comparaison. Bravo la France d'avoir autant de cinéma qui diffuse autant de films, même quand c'est des toutes petites sorties. Bref, c'était le bilan du box-office un petit peu à la bourre. Dune continue de tout écraser, on va suivre son parcours dans les semaines qui viennent. Et en attendant, on avance.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis, hey, vous avez une question sur l'actualité? Et si vous en avez une, eh ben, vous pouvez passer dans l'émission. Et puis après, moi, je réponds à votre question. C'est comme ça que ça marche. Suivez-moi sur Instagram. Pas que quand je suis pas là. Et aujourd'hui, la question nous vient de Claire SSLRD qui demande un Ready Player 2. Je veux, mais sans Spielberg, sérieux? Alors. Oui, tout à fait, mais calmons-nous. Déjà, bon, les gens qui me suivent depuis un moment le savent, mais peut-être que les autres le savent pas. Je suis un immense fan de Ready Player One. Je pense que c'est un des plus grands films de la décennie 2010 et même un des plus grands films de l'entièreté de la carrière de Steven Spielberg. Oh là là, il a vraiment perdu toute crédibilité critique à mes yeux en disant ça. T'as perdu toute crédibilité aux yeux de ta mère quand elle t'a vu à la naissance, d'accord? Bref, je pars de ce point de départ là. Ready Player One, c'est formidable. Et du coup, bah, ça fait un moment que ça discute en interne de est-ce qu'on ferait pas une suite à ce film? Parce que Ready Player One, à la base, c'est un bouquin d'Ernest Cline qui était sorti en 2011. Ça a été adapté en film en 2018, mais l'auteur, il a pas chômé. Il a continué à travailler et deux ans après le film, il a sorti une suite à son premier livre qui est Ready Player 2. Un livre que j'ai pas lu, mais d'après la majorité des critiques qui l'ont lu, il paraît que c'est vraiment pas bien. Il paraît que c'est même très 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 raté. Ça parle d'un bouquin qui est moins bon que le premier, ça parle de festival de références feignantes. Il y a même un critique de chez Wired qui a écrit sur Ready Player 2. On dirait qu'une IA peut écrire un livre. Ouch. Mais après, bon, Spielberg y avait pris des libertés avec le premier bouquin en l'adaptant. On peut toujours faire une bonne suite en prenant des libertés avec le deuxième bouquin. C'est possible. Et du coup, bah, ce deuxième film, il va exister ou il va pas exister? Eh ben, on sait pas. Ce qu'on sait, c'est que l'auteur, il a envie. Tu m'étonnes, son deuxième bouquin s'est planté, il doit avoir très envie de retoucher les royalties qu'il avait pompées sur le premier. Mais surtout, en fait, ce qu'on attendait, c'était de savoir si Papy Spielberg, il allait rempiler ou pas pour ce second opus. Et pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on sait de cette histoire? Eh ben, on sait que des propos rapportés par un média qui s'appelle Showbiz 411, qui est spécialisé dans le fait de choper des petites phrases en soirée du gratin hollywoodien, et il s'est retrouvé du coup à poser quelques questions au réalisateur. On lui a demandé à Papy Spielberg ce qu'il allait faire comme film cette année, mais visiblement il a pas de projet en cours. Il a déclaré « On est dans la phase de découverte, on recherche ce qu'on pourra faire ensuite ». Et alors là, on lui a dit « Bah, pourquoi pas faire Ready Player 2 ?» Et il a répondu « Non, celui-là, je serai juste producteur ». Et de là, c'était parti, Spielberg révèle que Ready Player 2 va se faire, ça y est, c'est dans les tuyaux, il va avoir un rôle de producteur, et vu qu'il sait qu'il va avoir ce rôle, et ben ça veut dire que le film va exister. Alors que non, il a juste dit « Si le film se fait, je le réaliserai pas, je serai juste prod ». Et vu qu'il a réalisé le premier, bah c'est assez commun qu'un réalisateur qui a fait le premier film soit producteur sur la suite, parce qu'on va réutiliser des assets qu'il avait créés dans le premier. C'est juste un fonctionnement normal à Hollywood. Warner Bros. A pas du tout greenlight la suite. Tout ce qu'on sait, c'est que l'auteur a très envie que ça se fasse, mais ça ressemble plus à un rêve humide qu'à une annonce tangible. Mais vu que Spielberg dit qu'il va être producteur, c'est sûr que ça va se faire? Non. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que si une suite se fait, Ty Sheridan, qui jouait le héros du premier, il a dit qu'il était trop chaud pour rempiler. Et Olivia Cooke, elle est contractuellement obligée de rempiler. Mais pour ce qui est du film en lui-même, bah, on a zéro nouvelle. Puis quand il dit qu'il va être producteur, il va être producteur, genre j'ai un rôle créatif à l'intérieur du film, ou juste il va être producteur exécutif, ce rôle qu'on a créé pour mettre son nom et toucher juste un chèque. Parce que producteur, il sait faire Spielberg, mais il le fait extrêmement rarement, et pas sur les suites de ses films. Il l'avait fait notamment sur le duo Iwo Jima de Clint Eastwood, il l'avait fait pour plus récemment Maestro de Bradley Cooper, pour Super 8 de J.J. Abrams. Mais quand on parle de producteur exécutif, qui, bon je l'avais expliqué, il y a une autre émission, je sais plus quand, mais c'est quasi un titre honorifique, bref, il a son nom quand même sur des sacrés bousasses. Il y a le nom de Spielberg sur les Jurassic World, sur le dernier Transformers. Voilà, non mais c'est pour vous dire que producteur, ça veut rien dire, juste producteur pris tout seul. Donc on s'en porte pas, on attend de voir. Moi de toute manière, je suis déjà ravi par le travail extraordinaire qu'a accompli Spielberg avec le premier film. Ça me suffit, j'ai pas besoin de voir une suite pour être heureux. Et si jamais elle existe, eh bien wait and see.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. D'habitude, le vendredi, c'est un auditeur qui prend la parole dans l'émission, mais vu que j'étais pas là mercredi, je me suis dit, allez, pas d'auditeur cette semaine, c'est moi qui vais parler d'un film, mais vous pouvez quand même envoyer des audios à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com, comme ça vous pourrez passer dans l'émission de la semaine prochaine. Et moi, de mon côté, aujourd'hui, je vous emmène encore en salle en France. Oui, il y a beaucoup de sorties cette semaine, et il faut qu'on parle de The Sweet East.
Something delicate.
So, my mystery friend, what's the story?
Avant qu'on commence, est-ce que vous avez vu passer la déclaration dans Libération du réalisateur de The Sweet East et de sa comédienne principale? Ils ont fait une grosse déclaration sur le studio A24. Je les cite, le réalisateur a dit « Ce que les Français considèrent comme du cinéma indépendant n'en est pas du tout. A24 n'est pas indie, c'est un studio, une usine. » Et juste derrière, la comédienne principale a dit « Ce sont les pires de tous, leurs films n'en sont pas, ce sont des formules mathématiques. » C'est surprenant comme déclaration et surtout, en fait, j'aimerais en savoir plus. Parce que, oui, je suis conscient que A24, c'est pas une fabrique anarchiste où on peut se permettre tout et n'importe quoi, que c'est une liberté qui est quand même assez contrôlée. Mais de là à dire, ouais, A24, c'est même pas des films, c'est vraiment du propos edgy un peu choquant pour pas grand-chose. Surtout que le réalisateur Sean Preece-Williams, à la base, il était chef-op. Et il a été chef-op pour des films A24, notamment Good Times, des frères Safdie. Et on le sait que The Sweet East sort par un tout petit studio parce que A24 en a pas voulu. Du coup, est-ce que c'est pas un peu juste un type aigri? Je sais pas. Après The Sweet East, oui, c'est du pur cinéma indépendant américain qui est sorti par un tout petit distrib aux US qui s'appelle Utopia et qui va suivre Liliane, une lycéenne qui va fuguer pendant un voyage scolaire et qui va parcourir les États-Unis à travers un paquet de visions plus ou moins sympathiques. On en avait déjà touché un mot dans le bistrot d'Andrew il y a quelques semaines, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais donné un avis rapide dessus, là je vais pouvoir compléter. Parce que c'est vendu pas mal comme une sorte d'Alice au Pays des Merveilles désenchantée et c'est littéralement ce que c'est la métaphore. Je veux dire, quand elle fugue, elle passe à travers un miroir pour découvrir d'autres univers, on peut pas faire métaphore plus appuyée. Et donc c'est Nana qui va aller de situation en situation dans un pays qui a complètement déraillé avec des personnages loufoques à l'intérieur, ce pays étant juste les États-Unis en fait. Et rien ne va dans ce pays. Je veux dire, niveau religion, niveau politique, niveau star system, niveau cinéma, rien ne va à l'intérieur. Et donc c'est essayer de confronter en permanence l'innocence de cette jeune fille avec toute la merde qui l'entoure. Le film est chapitré et du coup à chaque chapitre, le but c'est de tirer sur une nouvelle catégorie de personnes. Le premier par exemple, c'est sur les pseudo-punks qui sont juste des petits branleurs insignifiants, faussement anarchistes et faussement activistes. Ensuite on tire sur les néo-fascistes complotistes fans d'Edgar Allan Poe, on tire sur le cinéma moderne réinventé réinventé par les minorités et son star system qui pue. Et on termine en parlant d'extrémisme religieux. C'est quoi la situation des populations arabes aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe quand on regarde plus? Voilà, c'est tout l'enjeu du film. C'est un film de sale gosse qui crache sur tout et son contraire. Et en vrai, bah forcément que ça me plaît un petit peu. Parce que je trouve le film assez méchant, parfois même assez gratos, mais assumé dans son délire. C'est un film qui hurle sa volonté de liberté, même dans sa forme filmique. Au départ du film, il y a une scène de comédie musicale, parfaitement gratuite, qui ne reviendra jamais. Mais puisqu'on est au cinéma et qu'on peut tout se permettre, eh ben on se le permet. C'est du cinéma, on peut tout faire, on est libre. C'est les US, c'est le pays de la liberté, on peut tout faire. Et comme je le disais, le réalisateur, c'est un ancien chef-op et ça se sent. Il y a un travail tout particulier sur la pellicule, sur la manière dont les couleurs réagissent à la pellicule, sur la manière dont justement on va créer ces cadres pour renforcer le travail colorimétrique. Et puis même comment on passe d'un genre filmique à un autre, comment aussi par les costumes et le traitement de ces costumes dans un espace de couleurs, eh ben ça raconte quelque chose de différent, comment on navigue à l'intérieur de trucs qui ressemblent à des peintures. En fait, ils ont cherché à particulièrement esthétiser tout ce qu'il y a de plus dégueulasse aux États-Unis. Et du coup, c'est intéressant. C'est un parti pris déjà, cette idée de chercher dans tout ce qui est sombre un petit peu de lumière. Parce que l'héroïne est comme une éponge qui va se nourrir de toutes ces rencontres. Elle sait pas vraiment ce qu'elle veut. Elle a pas de personnalité particulière. Elle s'en fout de tout. Mais du coup, elle rencontre des gens, elle absorbe leur histoire, elle absorbe leur personnalité et elle va les recracher à chaque nouveau chapitre. Elle se construit en fait sur son environnement. Et même quand celui-ci est particulièrement hostile, eh ben, elle cherche à tester les limites. Elle cherche justement à voir jusqu'où elle peut aller dans une situation de danger. Et puis bonjour, le casting qui entoure l'héroïne. C'est-à-dire que oui, je vous disais, l'héroïne, elle est jouée par Talia Ryder, mais il y a aussi Simon Rex, il y a Ayo Edebiri, il y a Jacob Elordi dans le film, non, il y a un paquet de gens. Mais après, et c'est ma seule limite avec le film, c'est une réflexion postérieure au film, c'est que je sors de The Sweet East en étant particulièrement conquis, mais je me demande si j'ai vu genre un vrai bon film ou juste une petite crotte de nez arty qui pisse pas bien loin. Vraiment, moi-même, je suis perplexe sur cette question, sur cette idée de est-ce que j'ai vu un film qui est intelligemment critique sur son époque ou est-ce que j'ai vu juste un film qui est la somme de tout ce qu'il critique à l'intérieur. Est-ce que The Sweet East fait l'illusion le temps de la diffusion en salle? Et est-ce qu'au final, c'est pas juste un petit film de festival brillant sur l'instant, mais très rapidement oubliable? Je sais pas. Je sais juste que je sors de la salle en étant conquis parce que pendant 2 heures, j'ai voyagé, j'ai découvert un autre monde et ça m'a fasciné. C'est une sorte de voyage en enfer, The Sweet East. Et ce genre de voyage, on en manque un petit peu dans le cinéma moderne. C'est déjà ça de prix. Peut-être que ça vous emportera. Peut-être que vous trouverez ça ridicule. C'est à vous d'aller le voir en salle.
This is not a safe place for you to be.
Wait.
C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux et je suis ravi de terminer cette semaine en votre compagnie. Je me permets de dire d'ailleurs qu'on va reparler lundi des horaires de diffusion de l'émission parce que, ouais, va y avoir du changement. On va tester des trucs. On va tester des choses ensemble. On va voir. Ce sera pour la semaine prochaine. Donc, on se retrouve lundi. En attendant, c'est terminé. Si vous en voulez encore...
Non, mais oui, bien sûr, mais c'est fini, cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.